Merci d'écouter France Inter, 19h21.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur le Brexit et ses conséquences. À lire la presse ce matin, on s'aperçoit qu'elle reste largement nébuleuse. Personne ne sait encore si les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne seront par exemple comparables à celles de la Norvège, ou de la Suisse, ou du Canada, c'est très différent à chaque fois, ou alors si ces relations seront régies par les règles de l'OMC. Sur les modalités concrètes, point d'interrogation également. Idem sur le rythme du divorce, certains pays membres de l'UE veulent une rupture rapide, claire, nette. D'autres estiment au contraire qu'il faut prendre son temps et ne pas improviser dans l'urgence. Qu'en pensez-vous? Laquelle de ces options vous semble la plus à même de sortir de la crise ouverte par ce Brexit? On en débat jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Vous avez trois moyens pour nous joindre et participer à cette émission. Bonsoir Guy.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, vous démarrez ce téléphone sonne et nous vous écoutons.
Oui, la question c'est, les Anglais ont pris une décision et donc on vit un moment où on dit les politiques, ils ont aucune prise sur la réalité, sur les choses, sur la vie. Les Anglais, ils ont décidé de sortir de l'Union européenne. Je pense que les négociations doivent commencer le plus vite possible, au moins pour montrer que la politique, ça sert à quelque chose. Et quand que le plot volte, il se passe quelque chose. Et au niveau de la France, les Anglais ayant beaucoup fait leur campagne autour des problématiques, bon, d'un côté de l'argent et de l'autre côté des immigrations, de vouloir gérer leurs frontières, mais je propose qu'on arrête de gérer la frontière des Anglais et qu'elle passe de l'autre côté de la Manche.
Merci.
Comme ça, on en a fini avec Calais.
Merci Guy pour cette double question. Allez vite donc, pour vous répondre, Élie Cohen ici en studio à Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, directeur de recherche au CNRS et en duplex depuis le studio du Parlement européen à Bruxelles. Sylvie Goulard, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir madame, l'eurodéputée Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Allez vite, dit Guy, Élie Cohen, on va aller lentement, hein, j'ai l'impression.
Oui, parce qu'au moment où on parle, il n'est même pas certain que le Royaume-Uni finisse par se retirer purement et simplement de l'Union européenne. Pour des raisons assez simples, c'est que d'abord, le résultat du référendum a provoqué un véritable choc, c'est un véritable tremblement de terre au Royaume-Uni, tremblement de terre géographique, parce que on voit un clivage territorial très net entre des territoires qui veulent rester dans l'Europe et des territoires qui ne veulent pas. Clivage également générationnel. On voit que les jeunes veulent plutôt rester alors que les personnes plus âgées veulent plutôt partir. Clivage social très puissant. On voit que plus on est âgé, moins on est diplômé, plus on est dans des fonctions et des tâches de type peu qualifiées et plus on est pour la sortie. Et à l'inverse, plus on est diplômé, etc. Et plus on veut rester. Donc, le Royaume-Uni est très profondément divisé. Deuxièmement, la campagne pour le référendum a été une campagne largement mensongère. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir comment dans un pays aussi sophistiqué, on pouvait avoir des opérations de pure propagande. Vous avez vu que le thème de Boris Johnson, c'était les 350 millions d'euros qui étaient payés par le Royaume-Uni chaque semaine au budget européen et qui allaient revenir mécaniquement et qui allaient être investis dans le NHS, c'est-à-dire l'assurance maladie britannique. Et puis Farage a déclaré après le référendum que ma foi c'était faux, que bien entendu une partie de cet argent viendrait, mais pas tout cet argent. Donc une campagne mensongère, un pays très profondément clivé, une stratégie qui est un naufrage, c'est la stratégie de Cameron. On sait que c'est pour des raisons partisanes internes qu'il a monté toute cette campagne du référendum en espérant que sa victoire aux élections et sa coalition avec les Lib Dems lui éviterait d'avoir à faire ce référendum, et il a fini par faire ce référendum. Campagne pour le référendum surréaliste menée par Cameron lui-même, qui avançait des arguments particulièrement faibles et n'a pas réagi quand tous les arguments en faveur du Remain ont été démolis par les partisans du Leave en disant que tous les experts étaient discrédités, que tout le discours économique était discrédité, qu'il fallait voter en fonction de ses impulsions sur un seul thème, qui était le thème des migrations. Donc, dans ce contexte-là, moi, je comprends qu'on veuille prendre le temps de réfléchir, petit 1. Petit 2, qu'on puisse voir comment va évoluer la scène politique britannique. Je n'exclus même pas qu'il ne se trouve pas une majorité au Parlement britannique pour demander formellement que l'article 50 soit appliqué et que donc des conversations s'ouvrent pour la séparation. Donc je crois qu'on est dans un état de traumatisme et toute idée de précipitation non seulement me semble inefficace, mais me semble même pas praticable. Vous avez vu les déclarations de Cameron cet après-midi. Il n'a pas l'intention de se dépêcher
pour activer le fameux article 50. Sylvie Goulard, on reproche toujours aux politiques de ne pas agir. Ils ont reçu un mandat pour agir. Qu'ils agissent vite, disait notre auditeur Guy. Que lui répondez-vous?
Je suis d'accord avec ce que Elie Cohen a donné comme explication sur le contexte, donc je n'y reviendrai pas. En revanche, je voudrais dire à Guy qui nous écoute que je partage assez sa vision qui a le mérite de la clarté et de la simplicité, sans démagogie, parce qu'on a toujours affaire à des affaires complexes. Mais je crois premièrement qu'il est important de respecter une décision intervenue par référendum avec un très fort taux de participation qui aboutit à une décision que je considère personnellement comme désastreuse, mais c'est la démocratie telle en tout cas qu'on la conçoit, avec beaucoup de défauts en ce moment, mais je crois que c'est ce qu'il faut admettre. Et je dirais qu'il y a une différence malheureusement entre cette vision politique qui serait de dire, surtout si on fait entrer dans le jeu les citoyens des 27 autres pays, parce que M. Cohen s'est concentré sur le débat au Royaume-Uni, les circonstances au Royaume-Uni, les mensonges au Royaume-Uni. Moi, ce qui m'intéresse comme députée européenne et députée européenne française, c'est aussi qu'on pense à l'intérêt des autres. Vous savez que depuis vendredi dernier, il y a eu énormément de turbulences sur les marchés. Plus on attend pour déclencher cette procédure, plus on reste dans une espèce d'entre-deux bizarroïde. Donc personnellement, je crois que pour des raisons tenant à la démocratie d'un côté, tenant à l'économie et...
Ah, petite coupure. Donc tenant à l'économie de l'autre, disiez-vous, il y a eu une petite coupure pour un mot.
Je suis désolée.
Non, c'est pas de votre faute.
On a un impératif politique d'aller dans la direction que propose Guy.
Mais à quel rythme? La question. À quel rythme?
Alors,
là-dessus, il n'y a pas de consensus.
Encore une fois, nous allons voter. Bien sûr qu'il n'y a pas de consensus, mais il va y avoir demain une résolution du Parlement européen qui devrait être votée demain matin par les quatre principaux groupes politiques de ce Parlement pro-européen et qui devrait le dire de manière très claire. Ensuite, dans les États, il y a des divergences, mais je voudrais insister sur une chose. Juridiquement, il est vrai que le Royaume-Uni détient la clé, en quelque sorte, pour ouvrir la porte. Parce que juridiquement, c'est lui qui doit notifier. Ceci dit, personnellement, et j'ai même fait un tweet cet après-midi là-dessus, le Royaume-Uni est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un grand pays qui s'honore à défendre le droit international. Il y a un moment où vous ne pouvez pas tomber dans le juridisme et les petites arguties. On n'est pas en train de faire joujou avec les traités. Il y a un enjeu politique majeur, il va falloir que les Britanniques prennent leurs responsabilités et nous disent rapidement ce qu'ils veulent, c'est dans l'intérêt de nos citoyens.
J'aimerais donner la parole à Serge de Lyon. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir, vous m'entendez?
Oui, parfaitement bien.
Oui, d'accord, bonsoir. Je vous salue et je vous remercie beaucoup pour votre émission. Je suis un petit peu déçu de la réponse de M. Cohen que j'avais tant admiré pour l'état brancardier, etc. Alors je voulais faire une intervention un peu sur ce thème-là.
Allez-y.
On a l'impression très claire qu'entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas la même analyse et que les Français sont dans une logique de punition vis-à-vis des Anglais. On va leur faire comprendre qu'ils ont eu tort de voter ce qu'ils ont voté. Mais bon sang, c'est quand même un vote démocratique. C'est quand même un vote qui a été fait par des millions de gens en conscience. Il ne faut pas prendre les gens que pour des imbéciles quand même. Et donc, au nom de quoi on les punirait? Au nom de quoi on leur ferait sentir qu'ils ont eu tort de quitter? S'ils ont eu tort de quitter, l'avenir s'en chargera. Mais est-ce que c'est à nous, Français ou Européens, au sens large, de dire aux Anglais, vous avez eu tort et on va vous faire comprendre? Non. À mon avis, non, mais bon, peut-être que quelqu'un a une explication. Visiblement, Mme Merkel n'est pas tout à fait sur cette ligne-là.
Merci Serge pour cette très bonne question qui rejoint celle de Frédéric. Pourquoi aller vite, c'est obligatoirement punir l'Angleterre. Alors c'est vrai qu'on a lu dans la presse cette idée qu'il fallait, après le Brexit, rendre la séparation la plus douloureuse possible, à faire le plus rapidement possible, afin de faire peur aux autres dominos qui seraient prêts à s'effondrer. Alors, sur le thème de la punition comme conséquence d'un vote démocratique, Elie Cohen puis Sylvie Goulard.
Ah, mais je suis totalement hostile à cette idée de punition qui me semble vraiment totalement déplacée dans une communauté qui est la communauté européenne. Nous avons quand même passé 40 années ensemble. Le Royaume-Uni veut se retirer de l'Union européenne, très bien. Il faudra respecter les procédures. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de rappeler que, comme ça a été rappelé également par Madame Goulard, que nous n'étions pas maîtres de la procédure, que c'est aux Britanniques de déclencher la procédure de l'article qui permet la sortie de l'Union européenne. C'est pas à nous, on peut pas les y obliger. Et à partir du moment où c'est à eux de prendre l'initiative, il faut ensuite faire en sorte que le processus de séparation se passe le mieux possible. D'ailleurs, les traités ont prévu 2 ans de négociations, et 2 ans, à mon avis, ce sera une période qui ne sera pas suffisante pour régler les 100 000 problèmes qu'il va falloir régler. Il va falloir
défaire. Et 100 000, c'est pas une exagération.
Voilà.
Hein,
il va falloir défaire. Il va falloir défaire des années et des années d'intégration, de vie commune, qui sont marquées par des textes, et pas simplement par des textes, par des habitudes. Moi, qui suis un peu habitué à la chose économique et à la chose industrielle, l'interpénétration des économies, l'intégration de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, la segmentation des activités, le fait qu'on passe son temps à importer, à exporter, tout ceci s'est fait dans un cadre juridique déterminé. À partir du moment où on change fondamentalement de cadre juridique, mais c'est une désorganisation massive. Savez-vous qu'aujourd'hui, l'une des valeurs qui a le plus chuté en bourse à Paris, c'est PSA, Peugeot Citroën. Pourquoi ? Mais parce que Peugeot Citroën est précisément l'exemple d'un groupe industriel qui est à la fois britannique et français dans ses activités, qui a des activités sur place, qui a organisé un flux permanent d'échanges. Donc je crois qu'il faut avancer avec une énorme précaution. Bien entendu, j'ai bien entendu le message du peuple britannique qui veut se retirer. Personne ne conteste ça. Je dis simplement que, un, il y a des procédures. Il faut les respecter. Deuxièmement, il y a une instabilité au Royaume-Uni qui fait qu'au Royaume-Uni même, on n'a plus de gouvernement et on ne sait même pas ce que le prochain gouvernement voudra prendre comme piste. Vous avez évoqué tout à l'heure différents types d'accords commerciaux possibles. Au moment où on parle, on ne sait pas du tout.
On ne sait pas. Donc
je veux dire, simplement, cette idée qu'on va accélérer, qu'on va punir, et comme ça, on évitera la contagion, parce que c'est ça l'idée qu'il y a derrière. On sait qu'il y a des tas de référendums qui sourdissent ici ou là, en Hongrie, on sait qu'il y a des tentations aux Pays-Bas, etc. Et l'idée, un peu simplette, je crois, c'est qu'en punissant les Britanniques, on va dissuader les autres de réfléchir et de réclamer des procédures.
C'est rendre le fait de sortir le plus douloureux possible. C'est ça ce qu'on a pu lire dans les journaux.
Mais ça,
c'est toujours cité off, évidemment.
Bah oui, mais rendre le processus douloureux, je veux dire, là, il suffit de regarder les événements.
Ça va être douloureux, il n'y a pas besoin d'en rajouter.
La chute de la livre, ce qui est dit déjà sur le ralentissement économique britannique, l'impact sur les flux directs d'investissement, je crois que ça va être assez visible.
Sylvie Goulard, sur le thème de la punition, de vraiment marquer le coup en exigeant une sortie rapide.
Non, Serge et Élie ont raison. Je crois que c'est absolument pas le mot approprié. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il s'agit pas de punir, il s'agit pas de penser qu'on va dissuader. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, moi, je voudrais insister sur une chose. La démocratie suppose des électeurs adultes. Il y a eu un débat au Royaume-Uni de plus ou moins bonne qualité, mais l'enjeu était quand même rester ou sortir. Autant je trouve normal qu'on discute sur les modalités, autant je trouve un peu étrange qu'on vienne nous dire que si aujourd'hui on tire la conséquence logique d'un vote sur les bulletins, il y avait marqué « leave » ou « remain », hein, « sortir » ou « rester ». Si on tire la conséquence logique de ça, qui est que la sortie se fait sur la base d'un article du traité qui prévoit une notification du pays en question, je crois qu'il ne faut pas appeler ça une punition.
C'est sur le rythme plutôt la punition, Sylvie Goulard,
oui,
vous le savez.
Le rythme, attendez, oui, mais le rythme.
Le calendrier, pour le dire encore plus exactement.
Oui, mais encore une fois, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, c'est très réducteur. Nous devons tirer les conséquences, nous devons assurer, et je répète, à toutes les entreprises, à tous les citoyens de l'ensemble de l'Union européenne, et aussi dans des pays tiers, puisque vous avez des Américains, des Asiatiques, etc., qui investissent chez nous. La moindre des choses que nous devons, en tant que responsables politiques, c'est d'indiquer une voie, même si le bout du chemin n'est pas très clair. À ce stade, il me paraît particulièrement important de déclencher cette procédure, de le faire sans atermoiement ni chicaya, et à partir de là, de négocier de manière intelligente et posée. Il ne s'agit pas de punir, mais il ne s'agit pas non plus que ce référendum soit, enfin, je sais bien qu'il y a une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Beaucoup de bruit pour rien », mais il ne faut pas exagérer. On n'a pas fait tout ceci pour arriver ensuite à inventer un de ces coups dont nos dirigeants ont le secret, qui est de faire le contraire de ce qui leur a été demandé.
Alors, permettez-moi,
donc, très sincèrement, je ferai cette différence.
Permettez-moi, Sylvie Goulard, une question avant qu'on retourne au standard où Alexandre nous attend depuis un bon quart d'heure. Pourquoi y a-t-il une divergence entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne le calendrier? En tout cas, moi qui lis simplement les choses et qui cherche à m'informer, j'ai l'impression qu'il y a deux perceptions et de ce fait deux politiques du calendrier, des dates et du rythme.
Alors d'abord, ça je suis heureuse de pouvoir le dire à l'antenne, le franco-allemand, c'est en général des divergences qu'on essaye d'aplanir. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'un seul dossier depuis que je suis dans les questions européennes où il y a une espèce d'harmonie préétablie entre la France et l'Allemagne, qui sont deux pays fort différents dans leur tradition politique.
Et qui convergent ont des économies après, c'est ça ?
Voilà, donc tout le travail, et j'insiste bien là-dessus, tout le travail que représente le franco-allemand, c'est d'aplanir des divergences. Deuxièmement, sur cette affaire spécifique, le Royaume-Uni est un marché d'exportation très important pour l'Allemagne, puisque vous avez dans les exportations allemandes un premier marché qui est les États-Unis, et après vous avez au coude à coude la France et le Royaume-Uni. Donc Madame Merkel, qui sait défendre ses intérêts, qui en plus n'a pas énormément d'intérêts financiers comme la France peut en avoir avec ses très grands groupes bancaires et d'assurance installés à Londres, a tendance à vouloir temporiser, d'abord je crois que c'est son caractère, mais aussi en fonction de l'intérêt bien senti des industriels allemands. Je crois qu'il est important que les Français, tout en cherchant des solutions avec les Allemands, essayent aussi de défendre ce qui est leur vision, leur intérêt, leur perception. Je dirais qu'il y a une autre différence aussi. Dans notre pays, nous avons eu le général de Gaulle qui en 1963 s'était opposé violemment à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union, enfin dans la communauté européenne, et les Français avaient voté par référendum dans les années 70. Et je suis sûre que, outre une certaine tradition de rivalité avec les Britanniques, cela joue un peu dans la perception qui existe dans les deux pays.
Alexandre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Je vous remercie de prendre ma question. Je voudrais savoir si il y a un moyen... quel qu'il soit, qu'au final, le Royaume-Uni ne sorte pas de l'Union européenne, puisqu'on a vu que nous-mêmes, nous avions voté contre le traité de Lisbonne, mais qu'au final, il a été signé par la France. Et les Anglais étant, enfin les Britanniques plutôt, étant assez pragmatiques, je me pose la question.
Ben merci de la poser, Alexandre. Eli Cohen.
Alors, il faut bien voir, c'est que ce référendum, aussi incroyable que ça puisse paraître, est un référendum qui n'a pas d'effet direct.
Oui, il est consultatif.
Il est consultatif. Et dans la grande tradition démocratique britannique, c'est le Parlement qui est décisionnaire. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était pas une habileté de ma part d'invoquer l'article 50. C'est parce que, bien évidemment, j'avais en tête le fait que dans cette grande démocratie représentative, on pouvait avoir recours au référendum, et j'estime que ce recours a été malheureux en l'occurrence, et c'est en train d'être démontré, mais que le dernier mot restait au Parlement britannique, qui est le véritable siège de la souveraineté britannique. Et donc, moi, je n'exclus pas du tout que le traumatisme que les Britanniques vivent actuellement, avec l'éclatement sous nos yeux du Parti travailliste et du Parti conservateur. Songez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité au Parlement britannique pour voter l'activation de cette clause de l'article 50.
Ça craque
50.
De partout dans l'opposition.
Ça craque de partout. Et on est en train d'envisager même une situation dans laquelle le futur Premier ministre aura du mal à avoir une majorité sur quelque programme que ce soit. Et les scénarios que certains ont dit sont des scénarios où il faudra éventuellement en passer par de nouvelles élections. Et à ce moment-là, sur quelle ligne, avec quel parti et sur quel projet, puisque les travaillistes et les conservateurs sont profondément divisés.
Mais imaginons ce scénario. Vous imaginez possible qu'un parti de gouvernement aille devant ses électeurs en disant le Brexit n'a pas eu lieu, n'a pas existé, on tourne la page, c'est derrière nous et on refait campagne sur autre chose.
Non, il peut dire qu'il n'a pas reçu le mandat du pays pour... activer cet article 50 et que par conséquent, il va se retourner vers les autorités européennes pour voir s'il n'y a pas des arrangements qui sont possibles. Je ne sais pas. Je veux dire, ce qui est en train de se passer est littéralement incroyable. Et ceci intervient, et Sylvie Goulard a raison, dans un contexte où les marchés sont très agités, où les entreprises hésitent à investir, où il y a dans tous les domaines une instabilité qui est inquiétante, Et donc, il faut tenir compte de tout ce contexte. Et moi, aujourd'hui, ce soir, je n'exclus pas totalement l'idée que le Royaume-Uni puisse
revenir sur ce vote. Et vous, Sylvie Goulard ?
Je crois qu'à ce stade, on ne peut rien exclure. Mais je voudrais répondre à Alexandre sur un point très particulier. Il a dit que le traité de Lisbonne avait été soumis aux Français et qu'on l'avait fait passer quand même. Ça n'est pas factuellement tout à fait juste. Et je crois important pour tous les auditeurs, non seulement pour Alexandre, mais pour d'autres, de donner quelques précisions. En 2005, la France a voté sur un premier projet qui était un projet de traité constitutionnel. La France a voté non, c'est exact. Les Pays-Bas ont voté non, c'est exact. Mais vous avez eu, dans le même processus, 18 États membres, dont deux par référendum, l'Espagne et le Luxembourg, qui avaient dit oui. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation typique européenne où il faut quand même tenir compte de l'avis de tout le monde. C'est une des choses, un des messages que je veux faire passer. De même qu'aujourd'hui, j'ai défendu tout à l'heure les intérêts français ou les intérêts d'autres pays de la zone euro, du continent, par rapport à la décision britannique. Je crois qu'il est important qu'à l'inverse, on se souvienne qu'en 2005, il y avait peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous et qui, eux, avaient adopté le traité. Et ce qui s'est passé finalement, c'est qu'on a renégocié, et le traité de Lisbonne, qui a été signé à Lisbonne et qui est entré en vigueur en 2009, comporte un certain nombre de modifications pour tenir compte, notamment, du nom français et du nom néerlandais. Donc c'était une précision importante.
Oui, c'est une précision importante, mais le raccourci que fait Alexandre, vous le connaissez. On a dit non en 2005, on l'a eu quand même en 2009, c'était pas une constitution, mais ça s'appelait
mais
le traité de Lisbonne.
Écoutez, justement,
vous dites que c'est factuellement faux.
Je
vous
dis
que... Non mais vous l'assumez très bien. Non, permettez-moi juste de dire que vous savez quand même que cette perception circule dans l'espace public et que les perceptions sont politiques, Sylvie Goulard.
Et peuvent déterminer des votes à des référendums.
Mais
ajoute Eli Cohen.
Si je puis me
allez-y.
Vous me laissez finir un instant, s'il vous plaît. J'assume en tant que personnalité politique et j'assume qu'il faut faire cette pédagogie en expliquant aux gens la réalité. Si nous voulons faire de la politique de perception, de mensonge et d'approximation, je vous le dis très sincèrement, c'est ce qu'on a eu au Royaume-Uni et ça peut mener dans le mur. Après,
ben oui,
Alexandre
ben oui.
peut ne pas changer d'avis,
ben oui.
comme un certain nombre d'auditeurs peuvent ne pas changer d'avis. Je dis simplement que j'estime de ma responsabilité, et Dieu sait si je sais que ce n'est pas populaire, de vous dire ce qu'il en est dans les faits.
Alors,
ensuite,
factuellement,
les gens peuvent
maintenant,
me le
c'est
reprocher,
clair.
Pas de vous avoir mené en bateau. Parce que la raison pour laquelle nous sommes très mal en Europe, c'est que depuis des années, des politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités mènent les peuples en bateau et racontent des choses pour faire plaisir aux personnes qui les écoutent.
Alors, est-ce
ceux
que,
qui me connaissent sachent que ce n'est pas mon genre.
Est-ce que ceux qui ont voté Brexit, c'est-à-dire 52% du Royaume-Uni, vont être menés en bateau ? Je vous repose la question d'Alexandre. Y a-t-il une possibilité que le Royaume-Uni ne sorte finalement pas de l'Union européenne ?
Écoutez, ça c'est une décision qui appartient au Royaume-Uni. Je vous ai donné en début d'émission ma réponse.
Oui, alors,
ma réponse,
allez-y.
C'est de dire... Clairement, je l'ai écrit dans le Financial Times ce week-end. Vous pouvez aller voir, c'est tout à fait public. Que pour moi, je crois important, je l'ai dit au début, de tenir compte de ce vote. Il est impératif d'en tirer des conséquences politiques. Cela dit, je ne suis pas britannique, je ne suis pas le gouvernement britannique, je ne suis pas députée à Westminster. Si entre eux, ils en arrivent à la conclusion que c'est pas la décision qu'ils ont prise, à ce moment-là, on avisera. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien la raison pour laquelle, à mon avis, il vaut mieux l'activer rapidement, cet article. Mais ne faisons pas dire, en ce moment, que c'est l'Europe qui oblige le Royaume-Uni à ne pas déclencher l'article 50, puisque, comme je vous dis, même le Parlement européen va voter demain pour le leur demander. Donc là, on marcherait franchement sur la tête. C'est peut-être une question d'humour britannique, me direz-vous. Mais là, ça commence à ne plus être drôle.
Yves de Normandie, bonsoir Yves.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci. Une question très simple. Quelles vont être les conséquences de la perte des 13 milliards d'euros de la contribution britannique ? Voilà. Et puis j'avais une petite remarque. D'autre part, les députés britanniques étaient plutôt des libéraux. Hein, et les européistes, donc, qui souhaitent plus de social, devraient se réjouir. Puisque finalement, leur poids électoral au sein de l'Assemblée va augmenter.
Merci.
Et pourtant, personne ne s'en réjouit, je ne comprends pas.
Merci Yves pour cette question et pour la remarque. Par mail, Alexandros nous demande combien va coûter le Brexit à l'Europe. Et Jacques est en ligne également. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir.
Toujours sur les questions de gros sous, nous vous écoutons.
Je me posais la question de savoir ce qui va advenir des échanges avec le Commonwealth. Il me semble que je n'ai rien entendu là-dessus. Je crois savoir que les pays du Commonwealth ont accès au marché commun grâce à l'Angleterre, et certains pensent même une concurrence déloyale. On voit arriver du gigot à 7,50€ du kilo en prix public, alors qu'une production française est à 3 ou 4 fois ce prix-là. Et je voulais savoir ce qui va résulter sur ces échanges avec le Commonwealth.
Merci pour cette question. Alors, commençons par les 13 milliards de la contribution du Royaume-Uni, j'imagine, au budget de l'Union, disait notre premier auditeur, Eli Cohen.
Oui, alors d'abord, quand on parle de contribution britannique au budget européen, il faut distinguer la contribution brute et la contribution nette, puisque bien entendu, il y a des restitutions qui sont faites aux agriculteurs britanniques, et puis il y a le fameux chèque qui avait été donné à Madame Thatcher. Et c'est pour ça que lorsque, en fait, dans la campagne du livre, on agitait les 350 millions de livres, en fait, quand vous faites les calculs, c'est moitié moins qui reste en net. Donc, il faut raisonner plutôt sur une perte pour le budget européen deux fois moindre que à peu près ce qui est indiqué. Je pense que la perte doit être de l'ordre de 8 milliards à peu près, ce qui n'est pas négligeable.
Mais ce qui n'empêchera pas l'Union de fonctionner.
Ce qui n'empêchera pas l'Union de fonctionner, mais ce qui quand même demandera, si on reste à périmètre constant de dépenses et de financement, d'augmenter la participation des pays qui restent dans l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier élément.
Sur le Commonwealth ?
Sur le Commonwealth, donc il faut être très clair. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles, historiquement, le Royaume-Uni n'a pas pu rentrer lors de la demande qui avait été faite, c'est du fait de l'opposition du général de Gaulle. Et dans l'opposition du général de Gaulle, il y avait notamment les problèmes de la politique agricole commune, et il y avait le fait que, disait-il, les Britanniques étaient très sensibles à leurs importations du Commonwealth, et bien entendu, dans le cadre de la politique agricole commune, il n'était pas question de réserver aux productions du Commonwealth le statut de production communautaire. Et donc, ce n'est pas le cas. Alors simplement, le cas qui est cité par notre auditeur, c'est en gros des processus de relabellisation britannique d'importation qui viendraient du Commonwealth. Mais là, ça relève, à mon avis, des problèmes dont s'occupent les vérificateurs des origines, mais c'est pas du tout le cas. En fait, le pari que font les Britanniques, et notamment les Britanniques qui étaient partisans du Leave, c'est que en quittant l'Union européenne, en se débarrassant, en d'autres mots, des contraintes du marché unique, ils vont pouvoir être particulièrement conquérants avec le reste du monde, renouer avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, être beaucoup plus agressifs en Inde et en Chine. Et le pari qu'ils font, c'est que les 50% du commerce extérieur qu'ils font aujourd'hui avec l'Union européenne, ils le remplaceront et au-delà par cette nouvelle mondialisation de leurs échanges et par la conquête ou la reconquête.
Mais c'est un pari qui se regarde, comme on dit, ou c'est un pari fou d'après vous, Eli Cohen ?
À mon avis, c'est un pari fou pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas de substitut facile au commerce qu'ils ont avec les pays de l'Union européenne. Ça a été dit tout à l'heure par Sylvie Goulard, les échanges de machines-outils, par exemple, avec l'Allemagne, ou les échanges de champagne, de produits agroalimentaires avec la France ne sont pas facilement substituables. Le champagne n'est pas facilement substituable. J'ajoute au passage, par rapport à ce que disait Sylvie Goulard tout à l'heure, que la France a un intérêt fondamental à maintenir ses relations avec la Royaume-Uni, autant que l'Allemagne, parce qu'il faut savoir que le Royaume-Uni est le premier excédent bilatéral commercial de la France. C'est l'un des rares pays avec lequel nous ayons une balance commerciale positive. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que l'avenir du Royaume-Uni, c'est pas tant l'échange de biens, c'est ce qu'il montre tous les jours, que l'échange de services. Et alors, pour l'échange de services, le plus beau marché du monde, c'est l'Union européenne. Donc, perdre le marché de l'Union européenne, c'est une perte colossale. Et c'est pour ça qu'on parle tant du fameux passeport financier européen, parce que c'est l'un des vecteurs de la puissance économique et commerciale du Royaume-Uni, cette capacité de pouvoir faire du commerce financier à partir de Londres et en étant en accès libre sur tous les marchés européens, en ayant un accès au consommateur final européen.
Sylvie Goulard, sur les questions économiques et la question politique aussi, les députés britanniques qui vont quitter à terme le Parlement européen sont autant de libéraux en moins et donc autant d'opportunités en plus, disait notre auditeur, pour faire une réorientation sociale de l'Union.
Alors d'abord sur l'économie, une fois qu'Eli Cohen a parlé, il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter. Et je le remercie d'avoir indiqué que, effectivement, pour la France, c'était aussi un partenaire extrêmement important, parce que je ne voudrais surtout pas faire croire l'inverse. Alors, un point quand même sur les aspects budgétaires. La France est le pays qui paye la plus grande part de ce fameux rabais des Britanniques. Et pour ma part, je crois que ça ne serait pas une mauvaise idée de la part du président de la République, je le lui souffle, enfin sa conférence de presse est peut-être terminée à cette heure-ci.
Oui, je crois.
De dire que tant que les Britanniques n'ont pas activé l'article 50, ben, on pourrait peut-être prendre une mesure conservatoire sur le paiement du rabais. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent...
Expliquez-nous ce que ça veut dire très exactement.
Ben, ça veut dire, vous vous souvenez, donc, que Mme Thatcher avait obtenu ce qu'on appellerait dans un magasin une ristourne.
Mmh. I want my money back.
Sur leur contribution, elle est payée par les autres pays. Il se trouve que lors des dernières négociations en 2013, financières, budgétaires avec le Royaume-Uni, on est arrivé à une situation dans laquelle sur 6 milliards qui va des autres vers le Royaume-Uni, la France paye par an 1,6 milliard. Le deuxième pays qui contribue à hauteur de 1,2 milliard, c'est l'Italie. Et que l'Allemagne ne paye plus que 300 millions. Et donc, c'est pour ça que les Français ont aussi un intérêt assez particulier à ce que les choses soient clarifiées sans qu'on traîne. Je ne dis pas en se précipitant, mais sans que non plus ça traîne, parce que je ne vois pas pourquoi nous continuerions à verser des sommes importantes. Relativement indu, en plus, pour des raisons techniques, parce que par rapport à l'époque où c'était Mme Thatcher, le Royaume-Uni est plus riche que nous, et le budget est moins centré sur les dépenses agricoles.
Et donc, vous conseillez au président de la République de geler cet argent-là?
Vous savez, je crois que ça ferait partie du genre de petits gestes. J'ai fait pas mal de discussions avec les Britanniques sur les questions financières
du
ici
petit
au
geste,
Parlement.
Du genre de petits gestes antipathiques qui permet
non,
de...
Non, j'ai pas dit antipathique. Je dis simplement que
alors,
dans la vie, il faut savoir se faire respecter, c'est tout. Il faut rappeler simplement, je ne crois pas que parmi les auditeurs, il y en ait beaucoup qui connaissent cette particularité de la situation budgétaire française. Mmh. Ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. J'étais à
Donc,
Rome la semaine
dernière. Donc entre amis, il faudrait rappeler ce point-là et dire qu'il n'est pas gravé dans le marbre.
Regardez ce que M. Osborne a dit cet après-midi à ses amis. Encore une fois, je n'ai aucune envie de le punir, mais quand il dit qu'il défendra les intérêts bien sentis des Britanniques, je crois qu'on peut simplement lui dire qu'il n'y a pas de précipitation non plus pour nous à faire des chèques.
Dans l'Union européenne. Hein.
Non. Il s'agit, sincèrement, vous nous reprochez souvent d'être des naïfs, de ne pas savoir tenir tête à la Chine, d'être des petits plaisantins vis-à-vis des Américains, etc. Je dis simplement qu'il faut mettre dans le débat l'ensemble des points qui relèvent de ce débat. C'est tout. Il n'y a pas de raison non plus que nous soyons naïfs. Pour revenir aux députés, je crois qu'il faut un petit peu arrêter de mettre sur le dos des Britanniques tout ce qui n'a pas avancé dans l'Europe. Ils ont bloqué des choses, oui, ils ont bloqué le budget, ils ont bloqué... Mais en matière, si vous voulez, d'Europe sociale, je note que d'abord la zone euro qui pourrait avancer de son côté un certain nombre de propositions ne l'a jamais fait. Et vous avez un certain nombre de pays, que ce soit les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi les nordiques, qui sont parfois très attachés à des positions d'ouverture qu'on qualifierait en France de très libérales. Par ailleurs, vous aviez ici dans ce Parlement des collègues du Labour, donc du parti de gauche britannique, ou des Verts qui sont dans des positions... Donc je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Si nous voulons rééquilibrer les politiques européennes. Ce que j'attends le plus, ce sont des propositions constructives de la part des Français.
Allez, on retourne au standard. Bonsoir Joël, 25 minutes d'attente, c'est absolument scandaleux, je m'excuse. Je suis désolé.
Voilà.
Vous avez la parole.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai posé la question de la responsabilité de l'Europe. En remontant loin en arrière pendant des années, les atermoiements de notre Europe qui essaye de se construire comme une famille mais qui n'y arrive pas bien, visiblement, puisqu'il y a des enfants qui décident d'en partir, vous voyez. Et je me dis que est-ce qu'il ne serait pas temps aussi d'essayer de comprendre pourquoi les Anglais ont eu envie de quitter l'Europe et que apparemment d'autres pays ou d'autres partis politiques évoquent cette idée aussi. Et est-ce que par hasard, on ne pourrait pas chercher un petit peu dans le fonctionnement de l'Europe sur les atermoiements de laquelle on se lamente depuis quelques années, un petit peu la cause de tout ça? Et puis je vous entends parler du départ de la Grande-Bretagne comme si c'était déjà fait. Je trouve que c'est un petit peu rapide aussi parce qu'en effet, rien n'est fait. Donc, lorsqu'un enfant quitte une famille, peut-être que, au lieu de le punir de vous quitter la famille, on pourrait essayer au contraire de le garder en regardant un petit peu quelle est la cause de tout ça et qu'est-ce qu'on a donc fait pour que cet enfant ait envie de partir. Voilà ce que.
Bon, il peut être majeur, hein, il peut avoir 18 ans et avoir envie de vivre sa vie, mais s'il part plus tôt, effectivement, c'est là que ça devient problématique, Joël. Je vais passer la parole à Sylvie Goulard dans cet ordre cette fois-ci et rajouter une autre question. Pourquoi l'Union européenne n'a pas anticipé le risque d'un Brexit, aveu de comment dire, manque de vision et incapacité à anticiper, nous dit donc cette autre auditeur, Sylvie Goulard.
Alors d'abord, je tiens à dire une chose, je remercie Joël. J'ai eu une fausse joie en entendant Joël. Je me suis dit,
c'est souvent comme ça avec les auditeurs.
Non, mais peut-être qu'il aurait pu y avoir une femme. Je le glisse, mais je n'ai rien contre Joël et je vais lui répondre. Sur la responsabilité, il est évident, et Joël a tout à fait raison, qu'il faut se poser des questions. Pour ma part, vous savez, le premier bouquin que j'ai écrit sur l'Europe remonte à 2004. Ça s'appelait « Le Grand Turc et la République de Venise ». Et à l'époque, c'était dans la perspective d'une éventuelle décision de proposer à la Turquie de rejoindre l'Union européenne. Je disais « Attention, nous sommes en train de perdre les peuples. Nous avons un taux d'abstention aux élections européennes en 2004. » Je n'étais pas du tout dans ce Parlement à l'époque. Donc, franchement, je partage
l'idée. On est en quelle année, là ?
On est en 2016, donc vous pouvez demander à ceux qui ont gouverné depuis.
Donc 2016-4, ça fait 12 ans donc que vous aviez identifié le problème.
Oui, je vous assure. Et je crois que effectivement le problème est déjà posé. Donc on a fait les autruches, on n'a pas voulu le voir. Et c'est dramatique parce que petit à petit, les choses se dégradent. Donc
vous n'êtes pas naïf, mais vous êtes un peu lent. Hein.
Écoutez, moi, pour ma part, j'ai fait ma part. J'ai écrit l'Europe pour les nuls. J'ai fait un certain nombre batailles dans ce Parlement. Je crois vraiment que vous devriez demander à d'autres ce qu'ils ont fait de l'Europe, notamment quand ils exercent ou quand ils ont exercé le pouvoir et que parfois ils prétendent même revenir. Mais je voulais dire une chose sur le fond. Oui, l'Europe a mal. Mais si vous regardez la carte du vote au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas dissocier un rejet de l'Europe d'un mal-vivre dans ce pays, qui existe dans d'autres, hein, je ne dis pas qu'il n'existe pas dans d'autres, mais comme ce sont les États qui conservent la compétence des politiques économiques et sociales, surtout au Royaume-Uni qui ne fait même pas partie de l'euro, hein, on ne peut pas quand même ne pas se poser la question de savoir si les autorités britanniques ont vraiment donné un avenir aux gens. Est-ce qu'ils ont fait une politique, on dirait dans le vieux jargon français, d'aménagement du territoire? Est-ce qu'ils ont eu le souci que le nord de l'Angleterre prospère? Ou est-ce qu'ils ont tout misé sur la prospérité de la ville de Londres, avec un développement très inégalitaire? Je préside l'intergroupe de lutte contre la pauvreté dans ce Parlement. Il y a au Royaume-Uni des inégalités qu'on retrouve ailleurs, y compris dans notre pays. Mais je crois que voilà, l'Europe a sa part de responsabilité. Il ne faut en rien le nier.
Sylvie Goulard, je vous interromps parce que je voudrais donner la parole à Muriel quand même avant de finir. Et je voudrais pas qu'elle passe, comment dire, enfin bref, elle a la parole. Bonsoir Muriel.
Bonsoir, donc merci. Et Sylvie Goulard, vous avez enfin une femme au téléphone. Voilà, moi j'interviens en tant que franco-britannique, résident à Paris, avec la moitié de la famille donc en Écosse et en Angleterre. Je voudrais souligner que ce référendum, ce n'est qu'un avis consultatif, que le Parlement britannique a tout à fait la possibilité et la souveraineté de pouvoir voter sur cette décision. Et je voudrais préciser qu'il y a une pétition qui prend de l'ampleur. Plus de 4 millions de signataires, de citoyens britanniques de Grande-Bretagne et de l'étranger qui ont signé pour demander au Parlement britannique de considérer un vote qui pourrait mettre fin à ce qui est une pure folie. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Eli Cohen et aussi Sylvie Goulard sur sa connaissance de la Grande-Bretagne. Ceci étant, Madame Goulard, pour moi qui suis moitié britannique, je vous sens très anti-britannique et je suis ravie de pouvoir apporter un petit peu.
C'est pour ça que je vous ai donné la parole, Muriel. C'est pour ça que je vous ai donné la parole. Merci beaucoup.
Je ne suis pas du tout anti-britannique. Je ne suis pas du tout anti-britannique.
Il vous reste 30 secondes pour démentir et régler ce problème diplomatique.
Non, je crois qu'on ne peut s'appuyer que sur ce qui résiste. Franchement, je suis tout à fait convaincue que ce pays doit rester dans l'Union européenne. D'un autre côté, on nous a trop reproché à Bruxelles de vouloir jouer avec les résultats des référendums. Ça a été encore le cas tout à l'heure. Je ne veux pas préparer la mauvaise perception du futur. Donc je suis prête, si les Britanniques, je l'ai dit, prennent cette décision souverainement de revenir en arrière. Mais pour l'instant, écoutez, on n'a pas de majorité, on n'est pas dans une situation où c'est à nous de dire ça. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de ne pas prendre les électeurs pour des adultes. Je pense que ça serait très mauvais qu'ils soient britanniques ou qu'ils soient d'un autre pays.
Bien
pour
reçu.
Pour l'instant, on a eu un signal clair.
Merci Sylvie Goulard, eurodéputée, Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Vous étiez en duplex du Parlement européen à Bruxelles. Merci Elie Cohen.
Merci.
D'avoir été ici en studio à Paris, économiste, directeur de recherche au CNRS. 20h sur Inter.